Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, désengorger les urgences, un appel à la fois. Plus d'éducation physique, s'il vous plaît. Et se battre pour le droit à mourir à la maison. Bonne écoute.
Désengorger les urgences, un appel à la fois. Un texte de Alice Girard-Bossé, paru le 4 février 2023 dans La Presse. La Montérégie a réussi un véritable tour de force depuis l'été 2021. Désengorger les urgences et épargner des centaines d'heures de travail à ses services paramédicaux. Comment? En mettant au point un nouveau service qui permet à des infirmières d'orienter les patients non urgents qui joignent le 911 vers les services appropriés. La presse s'est rendue sur place. Dans les locaux d'Alerte Santé à Longueuil, l'infirmière clinicienne Maude Dagenais est installée devant son ordinateur. Devant elle défilent les appels en temps réel faits au 911 pour des motifs de santé non urgents. Son but? Orienter les patients, si possible, ailleurs qu'aux urgences ou les inviter à y aller sans ambulance. 10 heures. Une octogénaire contacte le 911 pour de la diarrhée de teinte orangée et une faiblesse à la suite d'une opération récente aux intestins. Normalement, avec les antibiotiques que vous prenez, ce n'est pas étonnant d'avoir la diarrhée, mais la couleur orangée, ce n'est pas ce à quoi on s'attend. Explique Maude Dagenais à sa patiente après lui avoir posé quelques questions sur son état de santé. Pour avoir plus d'informations sur son dossier de santé, Maude Dagenais propose à la dame de joindre sa pharmacienne et de la rappeler ensuite. Au bout du fil, la pharmacienne confirme à l'infirmière que la teinte orangée n'est pas normale. « Possiblement qu'il y a du sang dans les selles », explique-t-elle. Ces possibles saignements ne sont pas à prendre à la légère, estime Maude Dagenais, qui recontacte sa patiente et lui conseille de se rendre aux urgences. Si c'est un saignement au niveau de votre intestin, on ne veut pas passer à côté de quelque chose qui pourrait devenir critique, dit-elle. Des centaines d'heures épargnées. Avant l'implantation du projet en juin 2021, un appel au 911 pour besoin médical n'avait qu'une trajectoire de service possible. L'ambulance vers les urgences, peu importe la gravité de l'état du patient. Dans la dernière année, parmi les appels évalués par ces infirmières, près de 60% ont pu être dirigés ailleurs qu'aux urgences ou transportés autrement que par ambulance. À la fin de l'appel, Maude Dagenais décide qu'elle n'enverra pas d'ambulance chez sa patiente. Elle confirme plutôt avec elle qu'un membre de sa famille est en mesure de la conduire aux urgences. Dans 24 heures, elle la rappellera pour vérifier qu'elle s'est bien rendue et qu'elle se porte bien. Les motifs de santé peu urgents occupent environ 10 à 12 % du volume d'appels de la centrale. Ce nouveau triage offre la possibilité, si la situation le permet, d'être orienté vers une clinique, le soutien à domicile ou de simplement recevoir des conseils d'auto-soins. Récemment, une femme de 90 ans a appelé le 911 pour son conjoint malade, donne en exemple Maude Dagenais. On suspectait des symptômes d'allure grippale, donc j'ai fait livrer à leur maison des tests COVID-19, se remémore-t-elle. L'infirmière les a assistés à distance pour faire le test. C'était bien un patient COVID-19 positif et il a pu rester à la maison. J'ai fait un suivi 24 heures plus tard et il allait déjà mieux. Ça nous a permis d'éviter un transport de paramédicaux, se réjouit-elle. Depuis le début du projet, on compte plus de 600 heures de transport ambulancier épargnées. On réussit souvent à trouver d'autres moyens pour les transporter aux urgences. Pour la clientèle plus âgée, on utilise un transport alternatif comme un taxi ou un transport adapté offert par le CISSS Montérégie-Ouest, indique Claude-Marie Hébert, chef de division clinique du groupe Alerte Santé. Place au travail d'équipe. Si un appel au 911 et considéré comme prioritaire, les infirmières ne le trient pas et des paramédicaux sont envoyés directement sur les lieux. Si les paramédicaux arrivent sur place et réalisent que ce n'est pas urgent, ils peuvent appeler les infirmières et effectuer une co-évaluation de la situation du patient, explique Simon Janot, technicien ambulancier paramédic et chef d'équipe à la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie, CETAM. Le technicien ambulancier paramédical met alors son téléphone en mode main libre pour avoir une discussion avec l'infirmière et le patient afin de déterminer une solution de rechange aux urgences. Au début, certains paramédics avaient des appréhensions car ils craignaient que ça prenne plus de temps de rester sur les lieux qu'amener un patient à l'hôpital. Rapidement, on s'est rendu compte que c'est bien mieux de passer 15 minutes avec le patient que d'attendre 2 à 3 heures à l'hôpital, dit Simon Janot, chef d'équipe à la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie. Ce service de coévaluation entre les infirmières et les paramédicaux, une première au Québec, est en place sur le territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest. Il devrait être étendu dans les prochains mois à l'ensemble de la Montérégie. Les infirmières de l'équipe Alerte Santé sont en poste de 7h à 23h du lundi au vendredi. Les effets de leur travail se font sentir dans le réseau de la santé. La chef des urgences du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield me disait qu'on le sent quand la régulation n'est pas là, car il y a des ambulances qui arrivent avec des cas peu urgents qui n'ont pas été filtrés, dit Geneviève Demers, chargée de projet à la régulation au CISSS de la Montérégie-Ouest. C'était « Désengorger les urgences, un appel à la fois », un texte de Alice Girard-Bossé, paru le 4 février 2023 dans La Presse.
Plus d'éducation physique, s'il vous plaît. Un texte d'opinion de Richard Chevalier, paru le 28 décembre 2022 dans La Presse. Richard Chevalier est éducateur physique, ex-collaborateur à La Presse et auteur de « Bouger pour un cerveau en santé » aux éditions La Presse. On apprenait dans La Presse récemment données probantes et percutantes que le niveau d'endurance cardio-respiratoire des jeunes de 6 à 17 ans décline depuis 40 ans. Pour rappel, ce déterminant de la condition physique est un prédicteur scientifiquement reconnu de la santé cardiovasculaire future d'un individu. On apprenait aussi que, pendant la même période, à taille égale, les jeunes ont pris, en moyenne, 7 kg. On peut supposer que ce ne sont pas 7 kg de muscles. En fait, le taux d'obésité abdominale, la plus nocive pour la santé métabolique, a plus que doublé depuis ce temps chez les jeunes comme les moins jeunes. Or, la sédentarité et la prise de poids augmentent le risque de développer des maladies métaboliques, diabète de type 2, hypertension, athérosclérose, etc. Et que dire du risque de problèmes de dos? La position assise prolongée jour après jour fragilise la colonne vertébrale et ses composantes comme l'ont démontré moult études chez les personnes travaillant assis, chauffeurs d'autobus, de taxi, commis de bureau, etc. Tout cela est de mauvais augure pour un système de soins de santé déjà en mode débordement. Que faire, donc, pour hausser le niveau d'activité physique des jeunes? Les solutions proposées par les experts cités dans l'article de Gabriel Bellan vont du transport actif, marcher ou rouler pour aller à l'école, à la pratique d'activités physiques parascolaires, en passant par l'ajout de temps en éducation physique. Les deux premières reposent sur le bon vouloir des parents et des jeunes, sans compter que le parascolaire attire bien souvent une minorité déjà physiquement active. Coup d'épée dans l'eau? il reste l'ajout de temps en éducation physique dans les écoles et même au préscolaire. 0 heure présentement. Si on s'appuie sur la science, sur quoi d'autre s'appuyer? Et ce qu'elle dit à ce sujet depuis longtemps, c'est la solution et voici pourquoi. L'éducation physique et à la santé, EPS, comme on l'appelle désormais, atteint pratiquement 100% des élèves puisque c'est une matière obligatoire dans les écoles et les cégeps. C'est un gros plus. Mais il y a un os. Le temps alloué à cette matière est nettement insuffisant pour atteindre les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation lui-même. Ces objectifs visent plusieurs cibles. Apprendre, notamment, aux jeunes pourquoi et comment bouger en développant des habiletés motrices de base. Lancer, attraper, sauter, pivoter, nager, etc. Et diverses stratégies de déplacement. Leur apprendre à améliorer leur cardio et à adopter de saines habitudes de vie. Meilleure alimentation, meilleur sommeil, moins de stress, etc. C'est dans le mandat des profs d'EPS, des profs ayant une formation universitaire parfois au long cours, maîtrise et doctorat, que de former des personnes physiquement dégourdies et responsables de leur santé physique et mentale. Il n'y a aucune autre matière académique qui fait cela. Hélas, impossible d'atteindre ces nobles objectifs avec le peu de temps alloué à cette matière. Au primaire, c'est à peine 120 minutes par semaine. Et encore, ce temps alloué est suggestif et pas obligatoire. Résultat, moins de 70% des écoles primaires du Québec offrent ces 120 minutes ou plus dans de rares cas. Presque le tiers des écoles primaires se contentent donc d'offrir 60 minutes ou moins par semaine. Au secondaire, c'est pire. À peine 50 minutes par semaine, voire 75 minutes par cycle de 9 jours, 37 minutes par semaine dans certaines commissions scolaires. Pour des ados en plein pic hormonal et de croissance et de plus en plus assis devant un écran quelconque, c'est physiologiquement malsain. Ce n'est pas pour rien que plusieurs organismes dédiés à la santé, OMS, UNESCO, Direction de la santé publique du Québec, Santé Canada, etc., recommandent tous d'augmenter le temps en EPS dans les écoles et de réduire du coup le temps assis. La recherche scientifique a largement démontré que les rares écoles qui appliquent cette recommandation améliorent la réussite scolaire des jeunes, leurs conditions physiques, exemple à 3 heures et plus par semaine, et leurs compétences motrices, gage de plaisir dans la pratique d'une activité physique et d'une vie physiquement active dans le futur. Il y a plus de 40 ans déjà, dans ce qu'il est convenu d'appeler l'étude de Trois-Rivières, on en a fait la démonstration éclatante. À l'école publique primaire Pierre de Coubertin, à Montréal-Nord, les jeunes profitent d'une heure d'EPS par jour depuis 1984 sans que leur rendement scolaire en soit affecté. Et les jeunes Coubertins adorent leur école. En fait, des jeunes en bonne condition physique sont plus aptes à se concentrer, à persévérer sur des tâches faisant appel à l'intellect et à retenir les connaissances transmises en classe parce que l'exercice améliore la mémoire de travail, court terme, et la mémoire à long terme. Ajouter du temps en EPS s'avère aussi une solution gagnante pour contrebalancer l'environnement obésogène dans lequel vivent de plus en plus les jeunes et d'adultes d'aujourd'hui. Il ne faut pas détourner les yeux. Beaucoup de jeunes ne sont pas physiquement actifs en dehors des cours d'EPS. Ils sont même de plus en plus scotchés devant un écran quelconque. La question se pose et se repose. Jusqu'à quand faut-il démontrer aux dirigeants politiques ce qui est scientifiquement démontré depuis un bon bout de temps déjà? C'était Plus d'éducation physique, s'il vous plaît. Un texte d'opinion de Richard Chevalier, paru le 28 décembre 2022 dans la presse.
Se battre pour le droit à mourir à la maison. Un texte de Nathalie Collard, paru le 12 février 2023 dans La Presse. Mourir à la maison entouré de ses proches, c'est le souhait de bien des gens malades ou vieillissants. Il n'y a pourtant que un Québécois sur 10 qui le réalise. La docteure Geneviève Dechêne veut changer cela. Elle en a fait le combat de sa vie. Tu vas faire des visites à domicile, la jeune. C'est avec ces mots que deux médecins d'expérience ont accueilli Geneviève Dechêne, 24 ans, fraîchement diplômée en médecine au début des années 1980. J'étais à la recherche d'un endroit à Montréal où on aurait vraiment besoin de mes services, confie-t-elle. Elle a atterri dans Verdun, un quartier qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'arrondissement en bourgeoisie qu'on connaît aujourd'hui, et elle n'est jamais repartie. La docteure Dechêne est honnête. Au début de sa pratique, elle ne connaissait pas grand-chose aux soins palliatifs à domicile. « Je ne savais pas comment détecter et traiter les souffrances, avoue-t-elle. J'ai appris immensément des infirmières de CLSC et des infirmières de Nova Soins à domicile, un organisme infirmier spécialisé en soins palliatifs. » L'élève a très bien appris. Aujourd'hui, la docteure Dechêne est devenue une référence dans le domaine. On l'appelle de partout pour avoir ses conseils. Il arrive même que des familles qui n'ont pas accès aux soins palliatifs à domicile dans leur région louent un appartement à Verdun pour que leur parent malade ait droit à ses bons soins et à ceux de son équipe. « Ce que j'aime en médecine, c'est la personne », lance la docteure Dechêne, qui nous reçoit dans sa grande cuisine ensoleillée. Ça paraît simple de dire ça, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre maladie, c'est la personne que vous êtes qui souffre d'une maladie. À la veille de prendre sa retraite, la dynamique sexagénaire aimerait bien que les Québécois critiquent le fait que les soins palliatifs à domicile ne sont pas offerts partout dans la province. Vous savez que dans le reste du Canada, environ 30% des gens meurent à la maison. Même chose en Europe, entre 25 et 45%. Il n'y a qu'au Québec que le taux est aussi bas, autour de 10 ou 11%. C'est à un point tel que les sociologues se penchent sur cette différence, dit la docteure Geneviève Dechêne. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite mourir chez soi, et heureusement, il existe des maisons et des unités de soins palliatifs pour les accueillir. Mais quand il y a une équipe médicale palliative à domicile, il y a 65% moins d'hospitalisation, insiste la docteure Dechêne. Une solution à bien des maux. Cette médecin d'expérience est convaincue que les soins palliatifs à domicile peuvent régler une partie des problèmes d'engorgement dans les urgences ainsi que l'accès aux médecins de famille. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Pendant une quinzaine d'années, j'ai été seul au CLSC de Verdun pour les soins palliatifs à domicile parce que pendant des années, mon syndicat, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, a décidé de ne pas encourager les visites à domicile qui sont disparues de la pratique de base des médecins de famille. Notre rémunération était devenue punitive. C'était deux fois plus payant d'être au chaud dans son bureau que sur la route pour voir les patients. Au fil des ans, raconte-t-elle, ses confrères et consœurs sont allés travailler à l'hôpital. Alors qu'ailleurs au Canada, les médecins de famille consacrent entre 15 et 18% de leurs heures travaillées à l'hôpital, au Québec, c'est autour de 40%, souligne la docteure Dechêne. « Nous sommes devenus des hospitalistes », s'indigne l'omnipraticienne, précisant qu'un médecin de famille qui travaille à l'hôpital sera absent une semaine sur deux ou une semaine sur trois de son bureau. C'est du temps qu'il ne prend pas pour voir ses patients. Pour désengorger les urgences. Il y a 15 ans, la docteure Dechêne a donc créé une équipe de soins palliatifs et intensifs à domicile à Verdun. En 2015, avec son équipe, elle a publié les résultats d'une étude sur l'impact de ses soins dans la revue « Le médecin de famille canadien ». On démontrait que si les médecins provenaient de l'hôpital, le taux de décès à domicile demeurait à 11 % plutôt qu'à 65 % si les médecins travaillaient dans le CLSC avec les autres professionnels de soins à domicile. Or, quand les 12 derniers mois de vie se passent à la maison avec une équipe médicale 24 heures, cela coûte, êtes-vous bien assise, 50 % moins cher qu'à l'hôpital, dit la docteur Geneviève Dechêne. Mieux encore, poursuit-elle, s'il y avait des équipes médicales intensives à domicile, c'est le quart des lits des urgences majeures qui pourraient être libérés, et tout ça à coût nul pour la société. Tout ce qu'il manque pour que ce service soit offert à l'ensemble des Québécois, ce sont des médecins, affirme la docteure Dechêne. Le réseau des CLSC est installé depuis 40 ans. Il ne manque qu'eux. Il faut que le médecin soit dans le CLSC avec les infirmières à domicile et avec les infirmières de soins palliatifs à domicile. Vous écoutez « Se battre pour le droit à mourir à la maison », un texte de Nathalie Collard paru le 12 février 2023 dans La Presse. Les plus malades des malades. La femme qui est assise devant moi est passionnée par son travail, ça se sent. Mais elle est également animée par un sentiment d'injustice. Souvent, le ministère va vous dire « On n'a pas besoin de médecins, il y a des infirmières en soins palliatifs ». C'est faux. Les infirmières ont besoin d'avoir accès à un médecin 24 heures sur 24 pour changer la médication d'un patient. Sans médecin, l'infirmière doit le mettre dans une ambulance, elle ne le laissera pas crier de douleur. Si vous voulez faire fâcher Geneviève Dechêne, dites-lui que les jeunes médecins ne veulent plus travailler autant que leurs aînés et qu'ils ne seront sans doute pas intéressés par des visites à domicile. J'ai commencé à recruter des jeunes médecins en leur disant « Aimerais-tu faire un travail très utile pour la société, humainement très touchant, aussi difficile médicalement parlant qu'à l'hôpital, mais payer la moitié de l'hôpital ?» Eh bien, 14 jeunes médecins se sont joints à moi. Alors, si vous entendez un vieux docteur de ma génération dire que les jeunes ne travaillent pas, je me retiens d'être impoli et de dire ce que je pense, parce que ces jeunes femmes-là, elles travaillent plus fort que je n'ai jamais travaillé. Des médecins débordés. Sans surprise, la lettre de la fille d'André Simard, publiée dans nos pages en janvier 2003, a fait fortement réagir la docteure Dechêne, la veuve de Robert Bourassa, est morte au centre hospitalier de Sainte-Marie dans d'affreuses souffrances sans accès à la sédation palliative. Voilà une dame qui était à l'hôpital, là où on ne devrait pas manquer de médecins en soins palliatifs, observe la docteure Dechêne. Or, il en manque là aussi. Depuis 2018, dans plusieurs milieux, les soins palliatifs médicaux sont bloqués. Chaque fois qu'un médecin prend sa retraite, on n'arrive pas à le remplacer. La docteure Dechêne ne cache pas son inquiétude. Depuis 4 ou 5 ans, on restreint les postes de médecins et d'infirmières en soins palliatifs, alors que la population québécoise est la 7e population parmi les plus vieilles au monde et la population qui vieillit le plus vite en Amérique du Nord. L'omnipraticienne m'assure qu'elle n'est pas du tout dans un discours « le médecin est roi ». Elle ne dit pas qu'il faut des médecins partout. « Pas du tout », répète-t-elle. « Ce que je dis, c'est que le noyau de base de l'équipe en soins à domicile, c'est le duo infirmière-médecin. Et ensuite, il y a les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les nutritionnistes, etc. » On ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé dans le cas de Mme Simard, mais de manière générale, Geneviève Dechêne observe que les rares médecins en soins palliatifs s'épuisent. Il y a une fabuleuse équipe au centre hospitalier de Sainte-Marie. Ils travaillent jour et nuit, mais ils ne sont pas assez nombreux. Regardez le modèle de soins palliatifs ontarien. Il y a suffisamment de médecins en soins palliatifs dans un hôpital pour couvrir tous les patients en fin de vie de l'hôpital, y compris ceux des soins intensifs. Qu'est-ce qu'on attend pour améliorer l'offre de soins palliatifs partout au Québec? C'est la discussion que la docteure Dechaine veut lancer. Espérons que son message sera entendu. Docteur Geneviève Dechaine répond à un questionnaire sans filtre. Le café et moi. Je dois 40 belles années au café. C'est ce qui m'a permis de faire le travail que j'ai fait et d'élever 3 enfants. Mais il y a 5 ans, j'ai développé une gastrite et j'ai dû arrêter pendant plusieurs mois, un sevrage douloureux. Maintenant, je bois des cafés au lait avec un café instantané dépourvu d'acidité. Ça ne goûte pas bon du tout. Des personnes que je réunirais pour un repas? Ma famille. J'ai 3 grands-enfants et, comme toute mère, je les trouve formidables. Ma fille aînée est enseignante de français au secondaire dans une école défavorisée. Mon plus jeune fils est travailleur social à domicile auprès des familles avec des enfants autistes et déficients intellectuels. Et celui du milieu est interniste dans les Laurentides. Il s'occupe de patients gravement malades avec des gardes à n'en plus finir. Avec ma sœur, la sénatrice Julie Miville-Deschenes, qui est passionnante et qui nous nourrit d'histoires extraordinaires. Et mon frère, qui vit à côté, et ma sœur, qui vit à 5 minutes en auto, j'ai la chance de pouvoir manger avec eux et de les écouter. Une lecture que je recommande, le site Palisciences, dont je suis la directrice scientifique et qui offre gratuitement, grâce à la contribution de la maison Victor Gadebois, de l'information et des ressources en ligne sur les soins palliatifs. Une activité pour décompresser? Je fais partie de la Société d'horticulture de Verdun. J'ai un jardin de 150 pieds. C'est une activité que j'adore, parce que tout le monde, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, y participe. C'est à côté du travail. Quand je finis mes visites à domicile, je vais au jardin. C'était « Se battre pour le droit à mourir à la maison », un texte de Nathalie Collard paru le 12 février 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.